très content de se retrouver après une belle soirée de basket, une belle nuit de basket NBA et basket universitaire. On va débriefer tout ça ensemble. Shai, on va commencer peut-être par le gros carton de la nuit en NBA. C'est celui de Devin Booker, 52 points et une belle victoire des Suns. Comme d'hab, avec Phoenix, ça enchaîne, le haut, le bas, c'est les grands 8. Victoire contre New Orleans, 124 à 111. C'était à l'extérieur en plus avec un Devin Booker de feu, je le disais, 52 points, 9 passes, 37 points en première mi-temps, 24 dans le premier carton, il a donné le ton. Ses coéquipiers ont suivi et c'est la deuxième fois de suite qu'il met 50 points à New Orleans. Voilà, les Pelicans ont leur bête noire.
C'est la troisième fois de suite même.
Troisième fois de suite à New Orleans, fois, ouais. C'est ça. Ouais, troisième alors, fois de suite.
Alors, parce qu'en fait, du coup, il a dû manquer des matchs entre temps. Mais alors, c'est pareil, ils ont sorti la stat parce qu'il y a Chamberlain dedans. Mais il n'y avait personne à part Chamberlain qui avait fait trois fois au moins 50 points contre le même adversaire. Et en janvier dernier, il met 52 points et il en met 58 en décembre 2022. C'est ses trois derniers matchs contre les Pelicans.
Donc, dans ses cinq plus grosses perfs de tous les temps, il y a trois fois contre les Pelicans quand même.
Voilà, donc il y a quelque chose. Alors, il a grandi à 100 km de New Orleans, mais je ne suis pas sûr que ce soit très, très important à ses yeux, mais il y a quelque chose. Hein. Donc, s'il y a retrouvailles en playoff, les Pelicans sont prévenus quand même.
Ouais, et puis du coup, pour les Suns, c'est une victoire importante parce qu'ils recollent à une victoire des Pelicans. Il y a un match d'écart. Ils se rejouent dimanche, pour le coup. Ça donne aussi un peu d'air à Dallas. Bon, c'est toujours serré au final cette course, mais Phoenix peut encore espérer finir dans le top 6. Ça continue de relancer, enfin, je ne sais pas si ça relance le suspense qui était déjà là, mais voilà, on va encore dans ce sens. On aura une belle fin de saison à l'Ouest de ce côté.
Mais c'est incroyable ce que tu commençais à dire tout à l'heure sur l'irrégularité, parce qu'une fois sur deux, on se dit non, mais ce n'est pas possible, ils ne vont pas y arriver et tout. D'un match à l'autre, tu as vraiment une, je vais pas dire une bouillie de basket, parce que je l'ai lu un peu, les Suns, c'est horrible. Bon, c'est juste que c'est décevant par rapport au talent qu'il y a dans l'équipe. Parfois, c'est pas très cohérent, tu comprends pas bien ce qui se passe. Et là, ils ont un match comme ça contre un adversaire de très très bonne qualité, où ils ont vraiment surnagé. Ils ont eu 25 points d'avance à un moment. Enfin, c'était et Booker qui joue à ce niveau-là, et tu as ce visage-là, que tu sais que tu peux le retrouver en playoff sur un match ou deux. Je me pose toujours juste la question sur une série entière, parce que sur un match ou deux, le niveau que Booker est capable d'avoir, on l'a déjà vu avoir ce niveau-là en playoff. Là, forcément, c'est pas la même équipe quand ça joue comme ça. Et il n'y a même pas eu besoin d'un énorme match de Kevin Durant à côté de ça en plus.
On l'a vu avoir ce niveau sur toute une campagne. Pour le coup. Pas juste sur un match ou deux. Lui, il est capable d'avoir ce niveau sur toute une campagne. Par contre, est-ce que les Suns, effectivement, peuvent suivre le rythme à chaque fois? C'est autre chose. Et n'empêche que l'Ouest est vraiment... Enfin, on le répète à chaque fois, mais c'est très fort. Tu sais, les Lakers et les Warriors, je ne me souviens plus exactement de leur bilan de l'an dernier, mais je pense qu'ils ont un meilleur bilan. Et pourtant, ils sont moins bien classés, quoi. Vraiment, tout le monde va être autour des 45 wins, de la première à la dixième place. C'est complètement dingue, ça.
Mais c'est l'Ouest, on l'avait ciblé dès le début de saison, c'était à la fois incertain, à la fois très fort, et t'as raison, c'est vrai que j'ai pas le bilan de l'année dernière non plus, mais une conférence aussi serrée, et quand tu compares avec l'Est, où t'as des équipes qui vont faire le play-in en étant vraiment négatif, c'est, tu vois, les Warriors 40-34, les Lakers 42-33, et t'as une équipe comme Houston qui est un peu en train de détacher, qui va finir peut-être, même sans doute, avec un bilan positif, et qui ne va même pas faire le play-in, ça montre quand même que le niveau est assez incroyable à l'Ouest, et on le redit comme tous les matins, comme dans chaque CQFR, les play-offs, là, ça va être une tannée pour faire des pronostics, pour analyser chaque série, ça va être fou, c'est le Far West, quoi.
Ouais, vu qu'on est dans le thème du play-in, il y avait un avant-goût du play-in à l'Est entre le 9e et le 10e, c'était Chicago-Atlanta, victoire des Hawks à Chicago, 113-101, voilà, c'est bon pour l'ascendant psychologique. Atlanta peut en plus encore passer devant Chicago d'ailleurs, mais
ils sont revenus à
un. Bah oui, du coup ils reviennent à moins d'un match, c'est 0,5 match à l'écart. C'est-à-dire que Atlanta a une défaite, a une victoire de moins, mais a le même nombre de défaites. Donc victoire d'Atlanta, 20 points de Bogdan Bogdanovic, 18 points. J'arrive pas à dire
Vic, son nom. Vic Krejci, record en carrière NBA pour Vic Krejci, qui a mis tous ses shoots
à 3 points,
6 sur 6.
6 paniers à 3 points. Il était là pour prendre des shoots et les mettre. Ouais.
Cinquième victoire en 6 matchs pour Atlanta. Toujours sans Trae Young, évidemment.
Retour de Jalen Johnson aussi.
Retour de Jalen Johnson. Est-ce que tu as vu la petite altercation entre Bogdanovic et Quinn Snyder sur le côté? Ouais. C'était chaud quand même. Hein. Ils ont dû les séparer.
Il a fallu les séparer.
Ouais, c'est... C'était un peu chou.
Mais bon, au final, les Hawks ont quand même gagné. Donc bon, ça,
Oui, et
j'imagine qu'après,
Bogdanovic.
dans le vestiaire, tout le monde est redescendu d'un étage et a pu savourer cette victoire.
Ouais.
Victoire aussi pour Orlando, qui a eu un peu chaud quand même sur la fin. Victoire d'Orlando contre Portland, 104-103. 20 points pour Franz Wagner, 17 points, 13 rebonds pour Wendell Carter Jr. Il y a plusieurs joueurs qui ont brillé du côté d'Orlando, mais comme je disais, c'était un peu chaud sur la fin parce que DeAndre Ayton, Dominayton, a ramené les Blazers. Il a fini avec 20 points et 12 rebonds, mais il a manqué le panier pour la gagne.
Ouais, j'allais dire, il doit la mettre. Bon, moi, à sa place, je la mets pas, hein, mais il a eu l'opportunité de faire, voilà, de rentrer un game winner qui aurait validé la bonne fin de match de Portland. Portland aussi, c'est de la semi-roue libre. Tu vois, il y a des équipes qui sont totalement roue libre. Portland, un soir, ils vont prendre 60 points dans les dents et d'écart, et le lendemain, ils sont capables
Oui.
d'accrocher une très bonne équipe à l'Est. Bon.
Ils visent la dernière place à l'Ouest, hein. Il y a fortement moyen qu'ils passent. Là, ils espèrent des victoires des Spurs. Après, les Spurs ont comment dire, annoncé que Devin Vassell et Jeremy Soane ne joueraient plus de la saison. Voilà. Peut-être que c'est. Je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais il y a une petite course pour ça. J'imagine que Wembanyama, de toute façon, il va aller gagner des matchs. Il y a une victoire de plus pour Portland, mais clairement, Portland, il vise la dernière place. Sinon, pour les amateurs de Fantasy League, hein, je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais Dalano Banton, il a encore mis 26 points. Je vous dis, c'est le mec, il faut miser. Chaque match des Blazers, il n'y a que lui qui score.
Ouais.
Il n'est jamais titulaire, hein, mais c'est lui le meilleur marqueur de Portland à chaque fois.
Ouais,
Allez,
c'est des joueurs
autre match.
improbables comme ça.
Ouais, lui, pour le coup, il mérite. Je crois qu'il a joué à Boston à un moment. Il
Absolument.
mériterait presque d'être dans une meilleure équipe, dans la rotation d'une meilleure équipe, en fait, d'Alano
Il
Banton.
le sera à un moment, hein,
Je
c'est
pense qu'il le, oui, je pense qu'il le sera. De toute façon, là, ça ne va pas rester à Portland, j'imagine, à l'issue de la saison. Mais ça serait plus intéressant. Autre match, c'est la victoire d'Indiana contre Brooklyn, 133-111. Les Pacers, c'est important pour eux de gagner. Ils cherchent à s'accrocher à leur sixième place à l'Est. Là, ils ont déroulé contre Brooklyn, déroulé en attaque. 43 points dans le premier quart-temps, 75 à la mi-temps, 27 points, 13 passes pour Tyrese Haliburton. Il y a encore plein de joueurs qui ont marqué plus de 10 points. Bref, c'est Pacers classique et c'est une victoire importante.
Ouais, par contre, blessure de Miles Turner au doigt, il s'est retourné le doigt. Bon, pas de fracture, mais il va peut-être manquer un peu de temps. C'est pas idéal à ce stade de la saison. Là aussi, petite altercation. Jalen Smith, Dennis Schroder. C'était un peu chaud et c'est Jalen Smith qui a été expulsé. Schroder, il y a pas la stat du nombre d'altercations
Il
provoquées.
s'embrouille beaucoup, hein. J'y ai pensé aussi.
Ouais, il s'embrouille beaucoup. Pour un
Et
MVP de champion de Coupe du Monde, il s'embrouille beaucoup.
du coup, Jalen Smith, en 16 minutes, il a quand même eu le temps de mettre 17 points, 10 rebonds.
Ouais.
Donc, pareil, le truc contre les Nets dans la peinture, c'est vraiment. Il y a des équipes comme ça. Washington, Brooklyn, c'est
Ouais.
entrée libre, faites ce que vous voulez. Voilà, tout est offert.
Et Indiana encore, enfin, ils sont qu'à une victoire du duo New York-Orlando, donc eux aussi ils sont.
C'est vrai.
On parle plus du tout d'Indiana, même moi je les
Ils ont
avais.
deux défaites, ils ont plus de défaites par contre. En fait, ils ont
Ouais,
joué
c'est
plus de
ça.
matchs.
Et ils ont une longueur d'avance sur Miami qui est juste derrière et qui espère éviter le play-in.
Au final, il y a plus d'écart quand même entre la cinquième et la sixième place qu'entre la sixième et la septième. Mais tu as raison, c'est serré. Au final, ça reste serré. Tu peux encore. Si Orlando ou New York, qui apparemment aura des absents jusqu'au bout, finit mal, ça peut. Il y a moyen d'aller chercher là encore une place un peu plus haute. Il y a eu
Yes.
un autre carton cette nuit, un autre carton individuel, c'est Jaren Jackson Jr. Il a mis 40 points. Les Grizzlies ont battu les Pistons sur le fil. C'est un peu cruel pour Détroit. Je pense que les Pistons cherchent un peu à gagner des matchs pour le coup, un petit peu, tu vois, à essayer de mieux finir. Et il y a eu une très grosse deuxième mi-temps de Jaren Jackson Jr. Je
Ouais.
crois qu'il a mis 27 points en deuxième mi-temps. Et c'est le
C'est
moment
ça.
où les Grizzlies ont renversé. En tout cas, à la pause, Détroit était devant 13 points d'avance, je pense.
Ouais, et il en met 21, je crois, dans le troisième carton tout seul. Il s'est un peu fâché en deuxième mi-temps. Et effectivement, Memphis était mené de 13 points et a pu.
Il n'y a plus Durant en face, hein, qui est sorti.
Ouais. Non, mais Jaren Jackson Jr., dans cette saison tellement bizarre pour les Grizzlies, il avait été un peu décevant au début avant qu'il y ait tous les blessés, que Morant ne puisse plus jouer. Là, c'est un peu le dernier, c'est le dernier survivant à Memphis. Même si Bane a repris aussi en cours de route. C'est bon, c'est 40 points. 40 points, c'est bien, mais ça reste anecdotique dans cette saison si compliquée pour eux.
Ouais, il a fait plusieurs cartons offensifs en fait cette
Ouais.
saison de Jaren Jackson Jr. Il y a eu quelque chose en attaque. Je pense que c'est son troisième ou quatrième match à 40 points. Il y a eu 36 points aussi pour Kate Cunningham, qui lui aussi finit fort depuis son retour. Malheureusement, malheureusement pour lui, il a raté le panier de l'égalisation. Et oui, c'est son troisième match de suite à plus de 30 points, Kate Cunningham. Du coup, je vais vérifier.
Il en a manqué pas mal des paniers de l'égalisation ou de la victoire cette saison, le pauvre. J'ai l'impression, à chaque fois que je regarde un match des Pistons, tu vas dans le play-by-play et puis tu as un dernier shoot, Kate Cunningham. Bon, c'est pas de sa faute. Hein. C'est comme la série de défaites. Il peut pas non plus tout faire. C'est compliqué.
Il y a eu 5 points, 4 passes pour Evan Fournier. C'est vrai que j'ai oublié, Ryan Rupert, il a marqué 11 points pour Portland.
Oui, pour Portland, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé.
Une petite perf sympathique, ça te prie. Les Celtics ont battu les Hornets 118-104. Pas de grosse surprise. Boston jouait avec son 5 majeur. 59e victoire de la saison, la 60e approche. 25 points, 10 rebonds pour Tatum. 25 points pour Sam Hauser. 20 points pour Kristaps Porzingis. Voilà, une belle
victoire. Je m'y ferai jamais, toujours à l'enchaînement. Jason Tatum a mis 25 points et Sam Hauser en a mis 20. Sam Hauser, sa mère, voilà, ça m'a toujours. À chaque fois, ça
me fait mal. J'ai même pas percuté, tu vois.
Mais oui, à Boston, bientôt les 60. J'ai pas en tête, c'est quoi leur meilleure saison depuis.
67, je crois. Je pense qu'ils pourront pas le battre.
Ça va être compliqué.
Il me semble que c'est 67 leur record. Mais les 65, ça me semble.
Oui, ce serait une de leurs meilleures saisons récentes dans tous les cas.
Ils ont le différentiel de net rating. Donc, le net rating de Boston est le plus élevé de la Ligue. Il y a 4 points de différence entre le premier et le deuxième net rating, qui est celui d'OKC. Et on est sur du territoire, des trucs. Quand ça arrive, normalement, c'est une équipe qui, à tous les coups, gagne. Boston, il y a vraiment, je pense, pour moi, c'est titre ou rien. Même finale NBA, je pense vraiment que c'est un échec pour les Celtics. Tu ne peux vraiment pas te permettre de faire autre chose que gagner cette saison. Et c'est quand même une pression particulière quand tu arrives en play-off. Tu n'es pas juste le favori. Tu es genre, ah, mais si tu ne gagnes pas, on va dire, hey mec, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois.
C'est terrible parce que c'est arrivé à pas tant d'équipes que ça récemment, à part les Warriors avec KD, qui démarraient une saison en disant, si vous ne gagnez pas, c'est mort. Tu vois, parce que pour chacun, tu te dis, bon, déjà, tu arrives en finale, c'est énorme. Mais c'est victoire ou rien. Moi, je suis un tout petit peu plus prudent que toi. Enfin, je me dis mais que
je,
déjà.
Je trouve vraiment que tu peux pas te permettre d'avoir autre chose, quoi.
Tu peux pas te permettre de ne pas aller en finale, pour moi. Voilà. Après, la victoire
en face, finale, c'est.
Bah, est-ce qu'ils vont. T'as Jokic en face, peut-être. Oui. Alors, si c'est pas Denver, ils sont obligés de gagner, pour moi. Voilà.
Si tu. Même si c'est Denver, pourquoi tu vois pourquoi Denver.
Ils sont
pas une équipe qui joue comme Boston. Ouais.
Non, mais Boston. Par contre, Boston sera favori, je pense au. Enfin, chez les bookmakers, ils seront favoris. Mais tu vois, il y a l'expérience du champion un peu. Je me dirais pas, ouais, c'est scandaleux, ils n'ont pas gagné. Sauf si c'est le scénario de la série.
Il faut
montrer un craquage. Voilà. Mais bon, par contre, oui, la finale à l'Est, ils ont tellement dominé la saison que ce serait invraisemblable de pas dominer les playoffs, à moins qu'il y ait une hécatombe. Mais bon, je suis d'accord avec toi, hein, dans le fond. Je pense que c'est l'équipe qui est favorite. Mais voilà, je sais pas s'ils vont tout exploser s'ils perdent en finale.
Ah oui, non, mais j'ai pas dit qu'ils exploseraient tout, moi. Je dis juste que ça serait un. Je parle même pas des conséquences, en fait, en termes d'effectifs, de management, etc. Je dis juste que tu as dominé la saison de la tête et les épaules. La meilleure équipe de la Ligue cette saison, c'est eux, et d'assez loin. Ouais. Normalement, tu es censé. Tu vois, je sais pas, les Bulls de 96, ils sont pas champions l'année d'avant.
Ouais, mais.
C'est le titre ou rien ou c'est pas titre ou rien? Alors, oui, ils gagnent 72 matchs, c'est pas pareil, mais tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est pas les champions en titre. Alors, oui, ils avaient déjà gagné des titres, hein, je sais, je triche.
Ouais, et puis le retour en cours de saison de Jordan et tout. Voilà.
Je triche, mais tu vois, l'idée, c'est que si tu domines tellement, à un moment, tu dois juste gagner, il n'y a pas d'autre alternative, quoi. Mais bon, je triche, je comprends aussi ce que tu veux dire, je suis d'accord. Si tu joues Denver, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Alors, on a fait le tour pour l'NBA, il y a quand même une grosse info NBA qu'on voulait évoquer, c'est le retour de Joel Embiid. C'est maintenant semi-officiel. Hein. Il a fait des 5 contre 5 à l'entraînement. Cham Charania et Adrian Wojnarowski ont annoncé qu'il reviendra cette semaine. Ça, c'est du coup quasiment sûr. Et peut-être même dès ce soir contre OKC. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, donc, Philly joue OKC et Miami. Miami, ça va être un match particulièrement important parce que c'est deux équipes à la course pour la 7e, voire la 6e place. Et du coup, ouais, les Sixers seront avec leur effectif au complet, a priori, en play-off, ou au moins au play-in. On verra s'ils iront jusqu'au play-off, mais...
En tout cas, les play-offs directs, je pense que c'est compliqué là, avec la victoire d'Indiana cette nuit. Ils ont 3 victoires de retard. Ouais. Même avec le... Non, ils ont même pas le tie-breaker sur. Si, ils ont le tie-breaker sur Indiana Philadelphie, mais déjà, ouais, c'est très assez important qu'ils reviennent pour le play-in. On avait discuté la dernière fois de se dire est-ce que c'est une bonne chose de le faire revenir à tout prix. Bon, alors, on ne sait pas dans quel état il est. Est-ce qu'en temps normal, est-ce qu'il serait revenu ou pas? Est-ce que là, c'est juste pour assurer? Mais si tu as un play-in contre Miami, c'est quand même mieux d'avoir Joel Embiid avec toi. Et même s'il y a défaite contre Miami, ce qui n'est pas garanti, derrière, pour dominer ou Chicago ou Atlanta, ce sera pas trop d'avoir Embiid pour te qualifier pour au moins pour jouer une série de playoffs, même si c'est contre Boston, a priori, ou Boston ou Milwaukee. Ouais.
Mais ça sera intéressant, ça va donner du piment, parce que là, pour le coup, on a une tête de série numéro 7 qui est, ou numéro 8, qui est potentiellement très différente de ce à quoi on est habitué. C'est une équipe qui était bien mieux classée avant la blessure d'Embiid. C'est une équipe qui est taillée pour jouer avec Embiid et qui est taillée pour aller au moins en finale de conférence à l'Est. Je ne garantis pas qu'elle ira, bien sûr, mais ça relance, je trouve, le suspense de l'Est, où je trouvais que voilà, il y avait les deux équipes en haut, pour moi personnellement. Alors, une équipe tout en haut, puis une autre, et après, beaucoup de moyens, quoi. Et là, au moins, ça donne un peu plus de... Ouais.
Mais c'est vrai, il ne faut pas oublier que Philadelphie faisait un super début de saison, au-delà de toute attente, parce qu'on en parlait beaucoup, même avant le début de la saison. On se disait, au bout de combien de temps Embiid va dire « je me barre », il y a eu le truc avec Harden, enfin... Et ça se passait super bien, l'entente avec Tyrese Maxey, les joueurs autour, tout était fluide. Entre-temps, ils récupèrent Buddy Hield. Enfin, l'effectif est bien, il est taillé pour un Joel Embiid qui serait pas blessé. Ma seule interrogation, c'est est-ce qu'il est vraiment à 100%. Enfin, à 100%, il va avoir besoin de se remettre en condition, c'est logique. La forme de match n'est pas la même. J'espère qu'il ne sera pas trop gêné, quoi, c'est tout, parce que les Sixers avec lui, c'était quelque chose. Et ça peut, comme tu l'as dit, peut-être relancer un peu. Ils peuvent jouer les troubles faits, peut-être.
Allez, on peut parler un peu de NCAA. Il y avait le tournoi féminin, la March Madness. On a enfin maintenant toutes les équipes du Final Four. Grosse perf cette nuit. Je te laisse la parole. Je te laisse commencer.
Quelle nuit ! Il y avait deux matchs. Je ne vous cache pas, je ne vais pas mentir à nos auditeurs et viewers. J'ai privilégié la NCAA W parce que les matchs étaient fous. Donc j'ai regardé la NBA qu'après en highlight et en accéléré. Mais c'était incroyable. Caitlin Clark, évidemment, tout le monde attendait. Le remake de la finale de l'année dernière, Iowa contre LSU. Et Caitlin Clark et Iowa ont fait plier les championnes de LSU avec un match encore assez fou de Caitlin Clark. 41 points, 12 passes, 7 rebonds, 9 paniers à 3 points. Ils n'ont jamais réussi à la gêner. Elle a pu faire son gimmick habituel, c'est-à-dire dribbler sur sa gauche, dégainer, boum. Pendant le match, il y avait je ne sais pas combien de joueuses WNBA qui tweetaient mais à quel moment est-ce qu'ils vont se mettre à comprendre qu'elle dribble sur sa gauche? Enfin, elles étaient déjà prêtes à l'accueillir comme il se doit en WNBA pour défendre sur elle, tu vois. Match exceptionnel de sa part. C'est à l'échelle universitaire, mais c'était en début de saison, c'était une super team LSU parce que c'est les championnes qui ont recruté en plus deux des meilleures joueuses universitaires de la saison dernière, Hailey Van Lys et Anissa Moreau. Et malgré ça, Caitlin Clark a fait Alors, j'allais dire un one-woman show, ouais, quelque part.
Ouais, mais 60, elle est impliquée sur 73 des 94 points de son équipe.
Ouais, c'est ça. Elle est en train d'exploser tous les records. Cette année, elle a battu le record du nombre de points all-time en NCAA. Je crois que c'est aussi la meilleure passeuse sur un tournoi NCAA. Elle a battu le nombre de paniers à 3 points marqués sur un tournoi. Enfin, elle explose absolument tout et sa carrière universitaire est déjà légendaire. Est-ce qu'elle va réussir à aller au-delà, ça va être la question, parce que là, c'est le Final Four. En face, il va y avoir UConn. UConn qui
commence à les choses sérieuses.
Les gens qui suivent de très loin doivent se dire, UConn, ils y sont tout le temps. Quelle est la surprise ? La surprise, c'est que toute la saison, elles ont eu des blessés graves, des fins de saison prématurées. Tout le monde a été blessé. Elles jouent avec des freshmen depuis le début de la saison et Paige Bakers, en gros. Et elles ont réussi à dominer USC. Avec un match exceptionnel de Paige Bakers, sorte de MacGyver de NCAA, parce que elle a joué poste 4 quasiment toute la saison. C'est une meneuse. Hein. Elle a joué poste 4 toute la saison en faisant 1m80. Et elle a fait 23 points, 10 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contre USC. Et son petit phénomène, Juju Watkins, qui a été tout à fait à la hauteur. 29 points, 10 rebonds pour elle. Elle a clairement pris rendez-vous pour la suite. Mais ça n'a pas suffi pour battre UConn qui va du coup se retrouver au Final Four pour la 23e fois, je crois, c'est le record. Record, à chaque fois avec Gino Auriemma, évidemment, espèce de Greg Popovich du basket universitaire féminin. Et du coup, comme tu le disais, on connaît effectivement le Final Four comme chez les garçons. Ça donne dans la nuit de vendredi à samedi, pour si vous voulez regarder ça. Tous les matchs sont sur YouTube d'ailleurs. Ça, c'est assez. C'est la première fois que c'est le cas. Je sais pas si c'est très légal, mais d'habitude, ESPN verrouille tout. Et là, tous les matchs sont sur YouTube. Et il y aura donc UConn contre Iowa, donc Paige Bakers contre Caitlin Clark. Et l'autre, South Carolina, qui est quand même le favori, contre NC State. Voilà le programme.
Ouais, NC State et UConn, les deux équipes féminines et masculines, sont dans le Final Four.
Ouais.
C'est la première fois que ça arrive.
C'est quand même que ça fait du bon travail en règle générale. Voilà.
Ouais, c'est des programmes où ça fonctionne bien cette année. Ouais. Bon, on a hâte de suivre ça. Ça va être, c'est quand même bien excitant là. Il y a un beau tournoi du côté des filles et du côté des garçons aussi. D'ailleurs, je vois, ça parle beaucoup de Zach et Day. Il y en a qui se disent, voilà, je vois des fois, non, mais en NBA, ça donnera rien. D'autres qui disent, si ça donne rien en NBA, c'est que c'est pas normal. Son coach notamment a dit ça. Je pense qu'il a déjà, au moins en tant que pivot backup, il peut y avoir vraiment quelque chose à aller gratter du côté de Zach Edey. Ça peut être, je pense, un joueur dont la cote va évidemment monter. Je serais quand même surpris qu'il soit pris, je sais pas, au-delà de la 17e, 18e place. Je trouverais ça.
Ouais, non, mais il sera au premier tour. Après, c'est juste comment son jeu va se traduire dans cette NBA moderne. Parce qu'il y a plein, je voyais des mecs qui disent, qu'est-ce qu'il a de plus que Boban Marjanovic? Il est très grand, il a des mains. Voilà. Mais il a des choses. Et il a dit récemment qu'il développait un petit shoot extérieur. Enfin, il a envie d'essayer de s'adapter. Et c'est quand même un gabarit incroyable. Hein. C'est un phénomène quelque part. Et je pense qu'il sera pris au premier tour. T'as raison. Je ne dis pas qu'il va tout casser.
Sera pris dans les 14, 15, 16, ces trucs-là. Moi, je serais pas surpris qu'il y ait une équipe. En fait, si t'es une équipe un peu ambitieuse, mais tu sais, genre t'es à la loterie parce que t'as pas, ou même t'es en début de, t'as fait juste les playoffs. Ça peut être intéressant d'avoir un big man comme ça. En fait, ça peut être ton big man backup. T'es pas à la draft, tu trouves pas toujours des titulaires ou des futurs stars. De toute façon, si tu trouves un très bon big man backup qui pendant 4 ans est payé au contrat rookie, c'est parfait pour toi en fait.
Bien sûr.
C'est si tu mets 15-20 minutes où il apporte 6-7 rebonds, 7-8 points, 9-10 points, c'est génial. Là, c'est presque les stats d'un titulaire pour certains pivots. Mais
ouais, après, les gens sont toujours un peu prudents avec les joueurs très très grands. Ils ont peur au niveau de la mobilité. Parce que forcément, il fait 2m24 et au même gabarit, t'as Victor Wembanyama, c'est pas les mêmes joueurs. Quoi. Mais faut pas lui enlever le fait qu'il a de très bonnes mains, qu'en université, il a su dominer et profiter de ce gabarit. C'est pas non plus un plot, quoi. Il a quand même une certaine mobilité. Hein. C'est pas. Mais je serais curieux de voir ce que ça va donner après. On va voir. Mais t'as raison, l'autre épique ou pas loin, de toute façon.
Ouais, de toute façon, on va voir déjà s'il arrive à mener Purdue jusqu'au titre. Et du coup, nous, on se retrouvera cet après-midi pour un podcast et demain et ce soir aussi pour une late session. Chat, il va rendre 23h sur Twitch et demain pour un nouveau CQFR. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Bonne journée.